France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Michel Reverdy est l'une des figures les plus importantes de la musique classique française au XXe siècle. Élève d'Olivier Messiaen et Claude Baliff au Conservatoire de Paris, où elle obtient les premiers prix de contrepoint, d'analyse et de composition, c'est un itinéraire des plus prestigieux qui attend Michel Reverdy, dont la renommée est désormais mondiale. Compositrice hors pair d'une œuvre de plus de 75 compositions, elle est également connue pour son rapport à la pédagogie, qu'elle développe notamment depuis sa résidence en 1993 au Conservatoire de Strasbourg. Si sa musique est de nature très complexe et pas forcément toujours facile d'accès, elle consacre toute une partie de sa vie à rendre accessible la musique classique contemporaine auprès du public et notamment des plus jeunes. Sa collaboration avec Pascal Quignard, Le nom sur le bout de la langue, est le fruit de ce désir. Dans ce numéro d'Euphonia de David Gis, diffusé pour la première fois le 8 mars 1995, c'est en particulier sur la place de la femme et de la compositrice dans le monde souvent très misogyne de la musique classique que s'exprime Michel Reverdy, revenant sur son parcours et sur les obstacles qu'elle a eu à franchir. Une heure d'entretien avec l'une des plus grandes compositrices de la musique classique du XXe et du XXIe siècle, donc, c'est tout de suite dans les nuits de France Culture.
France Culture, 14h30, Euphonia, David Gis.
Moi, je trouve que le fait d'être une femme est déjà un avantage. Moi, je trouve que le fait d'être une femme est déjà un avantage.
Musique en femme majeure, troisième volet. Volet aujourd'hui consacré à la composition musicale et nous sommes en compagnie de Michel Reverdy. Bonjour Michel.
Bonjour.
Et merci d'accepter de faire ce parcours musical et féministe avec nous. Je dis féministe puisque vous le savez, enfin vous n'êtes pas sans l'ignorer, j'espère, puisque vous êtes une femme. C'est aujourd'hui la fête de la femme.
Ah ben non, je ne savais pas.
Vous savez pas. Bien, je vous le dis. Je vous le dis, c'est drôle d'ailleurs parce qu'on y reviendra. Cette fête a peut-être au fil des années perdu ou gagné un autre sens. Enfin, ce sera peut-être aussi l'objet de notre débat. Alors, on ne vous présente pas. Enfin, on vous présente quand même, compositeur célèbre, ayant eu beaucoup de prix, ayant fait donc les études musicales traditionnelles, et puis étant entré en composition tout de suite.
Non, j'ai mis du temps, justement. Voilà, on est en plein dans le vif du sujet.
Déjà.
Parce que finalement, j'ai mis du temps parce que j'ai, pendant ma scolarité au Conservatoire de Paris, j'ai eu l'idée de faire un enfant. Alors j'ai perdu un petit peu de temps dans mes études, ça a été un peu plus long.
Voilà, déjà, le débat est lancé, mais on va commencer tout de suite en musique avec, pas Michel Reverdy, mais une compositeur célèbre, plus par son mari que par elle-même. Il s'agit de Alma Mahler. Alma Mahler qui nous sert à lancer notre débat avec Michel Reverdy sur la composition musicale. J'ai envie de vous citer, vous me parliez d'enfant, Michel Reverdy, juste avant d'écouter Alma Mahler, enfin la composition d'Alma Mahler. Tenez, j'ai une image. Hein. Tenez, la voilà qui s'avance aussi performante qu'un Macintosh Plus, chanelisé le jour, laïsé le soir, une main aux ongles nickel sur son dernier dossier, l'autre tenant avec amour la menotte poisseuse d'un chérubin grognon, la bouche rouge baisée sur celle de l'homme de sa vie, une oreille branchée sur le supermarché par téléphone, l'autre en direct sur la ligne Paris-Tokyo. C'est Michel Fitoussi dans le ras-le-bol des Superwoman. Je trouvais intéressant de démarrer sur un texte comme ça où on présente l'image de la femme actuelle empêtrée justement dans ces contradictions d'images. Vous posiez bien la question. J'ai fait un enfant et j'ai composé après.
Non, j'ai pas composé après. J'ai pris quelques retards dans mes études parce que c'est vrai que ça prend du temps de faire un enfant. Mais la lecture là de la Superwoman me fait penser à autre chose. C'est-à-dire, c'est pas si simple que ça. D'abord, les Superwoman, je crois que ça disparaît de plus en plus parce que finalement, étant donné que on avance dans le XXe siècle et dans un certain progrès social, je pense que maintenant la femme prend un petit peu ses distances par rapport à ça. Mais ça me fait quand même penser à quelque chose dont j'ai conscience. Bon, puisqu'on parle de la différence entre les hommes et les femmes, vous m'avez dit que ça serait le sujet. Hein,
C'est le sujet.
C'est qu'on ne pardonne pas ou difficilement à une femme sa médiocrité. Et que la femme doit toujours faire ses preuves beaucoup plus que les hommes. Et ça, je l'ai ressenti dès mes années d'études. Par exemple, je me rappelle très bien qu'au Conservatoire de Paris, il y avait très peu de femmes qui faisaient la direction d'orchestre. Et personnellement, je m'étais présentée en direction d'orchestre. Il n'y avait pas de concours, on recevait sur titre. J'avais exactement les mêmes prix que mes camarades garçons. Mmh. On ne m'a pas prise, ainsi qu'une autre de mes camarades. Et quand j'ai demandé des explications, on m'a dit « Oh, mais parce qu'on a déjà fait l'expérience d'avoir une ou deux femmes dans la classe de direction d'orchestre, de préparation à la direction d'orchestre il y a quelques années, et c'était tellement mauvais qu'on n'a pas voulu reprendre de femmes. Or, il y avait une quinzaine de garçons qui faisaient leurs études de direction d'orchestre. Sur les 15, il y en avait 9 ou 10 qui étaient vraiment médiocres. Mais on ne leur disait pas « Vous êtes médiocres parce que vous êtes des garçons. » Tandis qu'une femme était médiocre parce qu'elle était une femme. C'est comme au volant. Hein, quand quelqu'un conduit mal, le conducteur va dire « Encore une femme au volant. » Moi, j'ai l'habitude de dire encore un homme au volant quand quelqu'un conduit mal devant moi, justement par opposition, par réaction.
Alors, on anticipe un peu sur le fait qu'on parlera aussi de l'actualité de maintenant. Là, vous nous parlez des études, j'allais dire, au moment où vous avez fait vos études. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que maintenant, par rapport aux étudiants que vous avez au conservatoire, c'est la même chose?
Il y a peut-être un petit progrès quand même.
Un petit
mais
progrès,
petit. Tout petit. Mais ça va très lentement. Mais j'ai l'impression quand même qu'on accepte mieux les jeunes filles qu'autrefois.
Oui, mais les difficultés dans l'apprentissage et dans les études se situaient à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'apprentissage des instruments, à tous les endroits musicaux, c'était la même chose.
Non, je pense qu'une femme a beaucoup plus le droit par rapport à cette société d'hommes qu'est la musique. Elle a plus le droit de jouer et d'être interprète que d'être chef d'orchestre ou compositeur. Je crois que la situation du chef d'orchestre ou celle du compositeur, peut-être on va en reparler au cours de l'émission, comme c'est une situation qui sous-entend une volonté de puissance quand même quelque part, eh bien ça chiffonne
les messieurs. On est au centre d'une histoire importante, l'histoire du pouvoir et des chefs. On va vous écouter tout de suite et puis on continue cette cruciale question. Thank you. la première des sept enluminures de Michel Reverdy. Michel Reverdy qui est avec nous pour parler de la composition et surtout de la composition en relation avec cette problématique de l'homme et de la femme. Vous nous parliez juste avant que nous écoutions cet extrait du rapport de pouvoir en fait. C'est vrai que intervenir dans un champ musical qui est extrêmement masculin, c'est prendre un pouvoir par rapport à l'homme qui a envie de le garder. C'est comme ça que vous l'analysez?
Non,
c'est un peu sommaire.
J'ai pas du tout envie d'enlever le pouvoir à l'homme. D'autant
pas forcément
plus que
non,
et d'autant plus que je crois que chacun a son rôle. Je disais simplement que le fait de composer, c'est ça dénote une volonté de pouvoir sur autrui en général. Que le compositeur soit homme ou femme, quand on compose, quand on écrit un roman, quand on fait de la peinture, on a envie d'avoir un pouvoir sur autrui, c'est-à-dire de séduire, de plaire, d'envoûter, de fasciner, comme nous, on a ressenti la même chose en écoutant nos prédécesseurs, en regardant la peinture de nos prédécesseurs. Donc, cette volonté de pouvoir, peut-être, est mal ressentie par les hommes dans une société musicale qui est quand même à majorité masculine. Je dis tout ça, peut-être. Là aussi, il y a mille cas de figure. C'est-à-dire que, quand même, je ne veux pas non plus me faire l'apôtre du féminisme parce que je ne suis pas féministe à tout craint et que je m'entends bien avec mes collègues interprètes et compositeurs. Mais que, peut-être, il y a quand même un malaise chez certains par rapport à une femme compositeur.
Par rapport, justement, à cette prise d'expression, cette manière d'intervenir dans la musique en disant « je parle ».
Peut-être, oui.
Cette parole, c'est une parole... c'est vrai qu'on a quand même vécu des années importantes depuis les années 75, des grands mouvements féministes. L'égalité de la parole est reconnue par tous. J'imagine que vous n'avez plus maintenant, dans la vie musicale, de relations tendues avec les hommes par rapport à des sujets précis ou par rapport à des...
Ça m'est arrivé.
Ça vous est arrivé?
Avec certains chefs d'orchestre que je ne nommerai pas. Ah. Mais je pense qu'ils ont aussi des difficultés relationnelles avec les compositeurs hommes. Alors je pense peut-être pas que ce soit spécifiquement parce que je suis une femme. Cela dit, ça s'amplifie toujours quand il s'agit d'une femme. Je pense que quand quelqu'un a une difficulté relationnelle et qu'il est chef d'orchestre, par exemple, ou musicien, ça deviendra plus violent s'il est en face d'une femme, parlons peut-être des orchestres.
Oui.
C'est la relation avec les orchestres qui a été le plus dur dans mon existence, dans ma carrière de compositeur. J'avoue que maintenant, ça se passe très très bien parce que...
Qu'est-ce qui a changé?
J'ai vieilli et donc j'ai un peu plus de métier je pense que tout simplement, c'est un peu ma musique qui parle à ma place. Donc, les musiciens m'acceptent mieux. Et moi, je suis plus. J'ai mis de l'eau dans mon vin aussi. Je suis peut-être moins irritable. J'essaye d'avoir plus de patience. Et ça se passe donc très bien. Mais quand j'ai débuté, comme jeune compositrice ou jeune compositeur, j'ai eu parfois des accros avec des orchestres qui jouaient n'importe quoi, qui s'en fichaient, etc.
Et là, c'était difficile de prendre le pouvoir par rapport à lui, parce que vous ressentiez que vous étiez une femme et que ça ne serait pas passé
non,
pareil.
Non, je m'en suis aperçue après de ça. Au début, je pensais que c'était parce que j'étais jeune et inexpérimentée. Et après quelques années, d'ailleurs, c'était Betty Jolas qui m'avait ouvert les yeux en me disant « mais c'est parce qu'on est des femmes ». Je lui dis « mais non, Betty, c'est pas ça. Moi, c'est parce que j'ai pas encore assez de métier, etc. Et puis parce qu'ils sont bêtes. » Et finalement, j'ai un peu essayé d'analyser la question. Un musicien d'orchestre, et surtout autrefois où ils avaient beaucoup moins de culture que maintenant, était à la fois fasciné par le compositeur et à la fois très méprisant. Pour eux, le compositeur, c'est celui qui n'a pas pu faire autre chose. D'ailleurs, j'ai lu ça, je ne sais pas, dernièrement, je ne sais plus qui a dit qu'un compositeur, c'est un musicien qui ne sait pas faire autre chose que d'écrire de la musique. Donc, quelqu'un qui n'entend rien, qui écrit n'importe quoi. Et en même temps, il y a une fascination, parce que pour un interprète, le compositeur, c'est aussi le magicien qui écrit la musique qu'il va jouer. Alors, il y a toujours cet amour-haine vis-à-vis du compositeur, qu'il soit homme ou femme. Mais alors, quand c'est une femme, ça se complique pour le musicien d'orchestre. Parce qu'il y a aussi l'amour-haine entre l'homme et la femme, tout simplement, qui existe dans tous les couples, qui existe
partout.
Lié
au corps, lié à la séduction. Voilà. Et ça, du corps, on va certainement en parler tout au long de cette émission, parce que c'est aussi central dans la relation, et la relation du plaisir et du corps. Alors, un grand saut musical, quasiment 1000 ans, Hildegard von Bingen, c'est une compositrice.
On peut le dire. Oui, c'est dans Larousse.
Oui, c'est un compositeur, une compositrice, donc du XIIe siècle. On écoute un extrait. Compositeur qui répond à un autre compositeur à près de 1000 ans d'écart, Hildegard von Bingen, avec Michel Reverdy qui est en notre compagnie pour explorer ce masculin-féminin, cette différence. On s'était arrêté au corps. C'est vrai que la relation dont vous nous parliez avec les orchestres, bon, est une relation de territoire, de pouvoir, de difficulté à rentrer sur le territoire de l'autre. Mais c'est vrai que la sensualité et la relation du désir des hommes et des femmes vient compliquer le jeu et vient perturber un petit peu votre relation, ne serait-ce que musicale, par rapport à tous ces gens-là.
À vrai dire, quand je travaille, je ne pense jamais chose sexuée, si vous voulez. Et c'est vrai que bon, bah, quand je me retrouve en face de, surtout d'un grand groupe d'interprètes comme un orchestre, ça m'échappe complètement. Quand je me retrouve avec mes élèves aussi, par exemple. Par contre, quand on est avec un ou une interprète, là, on pense une femme, homme, parce que c'est une personne bien précise. Ça n'est pas un groupe. Mais bon, le rapport au corps, je ne sais pas, il se sent peut-être dans la musique. Mais là aussi, rien n'est blanc et noir.
C'est vrai.
Je pensais qu'il y avait toujours une composante féminine chez l'homme et une composante masculine chez la femme. Et par exemple, il y a une chose qui me frappe, c'est que très souvent dans ma musique, j'adopte des scénarios de type dramatique. C'est-à-dire, on part d'un point pour aller vers un autre point. Il y a tout un déroulement qui est de type presque théâtral. Et avec des tensions et des détentes. Donc, il y a l'expression d'un tempérament qui est le mien, d'ailleurs, qui est un tempérament très passionné, très fait de, justement de moments de sommeil et puis de grandes dépressions. Mais alors, est-ce que c'est féminin? Parce que moi, je trouve ça aussi chez Beethoven. Alors, bon, est-ce que chez Beethoven, il y a une composante féminine? Cela dit, j'entends toujours dire les gens autour de moi, la femme a un caractère plus dramatique, plus passionné que l'homme. Et c'est vrai que l'homme est plus raisonneur ou peut-être plus raisonnable, je ne sais pas. Alors, peut-être on peut trouver ça dans la musique, je n'en sais rien.
La question est complexe parce que là vous mélangez en fait deux notions qui sont la notion de forme et puis la notion
Absolument.
De tension interne.
Le psychisme voilà. et la forme. Mais de toute façon, la forme qu'on va adopter dans son œuvre, oui. elle dépend de la structure psychique que l'on a aussi, en grande partie. Bon, après ça vient tout le travail. Moi j'ai un goût par exemple des combinatoires, j'ai un goût de l'exigence de l'écriture, etc., qui me vient du fait que j'appartiens à une certaine lignée de compositeurs qui vont dans ce sens. Mais à part ça, je reconnais dans ma musique quelque chose que je porte en moi psychiquement.
Voilà.
Ça, c'est évident.
Mais qu'on ne peut pas qualifier de masculin,
voilà.
de féminin, et on ne peut pas l'identifier à une forme reconnaissable. Vous parliez de grands moments de tension, effectivement, on pourrait parfois penser que c'est une forme plus masculine que féminine, mais ça, c'est la connotation. Une chose quand même qui est majeure, et quand on préparait cette émission, vous m'en parliez, c'est le plaisir que vous avez à écrire cela.
Oui, j'ai énormément de plaisir à écrire.
Alors,
de la
féminin
musique.
Ou masculin, c'est
ça, peut-être. Parce que moi, j'ai beaucoup de plaisir à écrire. J'ai envie de partager ce plaisir avec un public. Et c'est vrai que je n'ai pas peur de parler de la notion de plaisir, alors que très souvent, mes collègues compositeurs masculins n'osent pas.
Là, vous voyez une vraie différence.
Ah, je crois. Bon, d'abord, le mot plaisir a été banni par les post-Schoenbergiens, vous le savez. On n'avait pas le droit de prendre du plaisir à écrire ou à entendre de la musique.
Pur et dur.
il fallait être aride, il fallait être sévère. Et moi, je déteste ça, je déteste l'austérité. Je veux dire que l'exigence d'un travail ne veut pas dire qu'on est sinistre. On peut être exigeant dans un travail, on peut le faire avec en y passant toute sa vie, en y consacrant toute son énergie, tout en faisant de ce travail quelque chose de beau et de plaisant. Je pense à Mozart, hein, par exemple. Il n'a jamais été sinistre et pourtant il a été tragique, il a été dramatique parce qu'il passait lui-même dans sa musique. Mais il n'y a pas d'austérité, il n'y a pas
Mozart,
de...
Mozart, c'est un homme, attention.
Oui, mais...
C'est une plaisanterie.
Donc, on ne peut pas parler de musique féminine et de musique masculine.
Évidemment, évidemment. Je vais vous faire découvrir peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, un compositeur, Claire Renard. Je ne sais pas si vous la connaissez. Claire Renard, donc, à qui j'ai justement posé la question de l'écriture masculine, féminine. On écoute déjà un petit peu de sa musique. Cette brève interview concernant la musique et les femmes, vaste sujet, pour vous à la fois compositeur, femme, et puis interprète aussi, puisque vous avez quand même beaucoup joué du piano.
Oui, j'ai joué du piano, ça c'est sûr, mais au départ, on a déjà une malchance du fait d'être femme, parce qu'on prendra plus volontiers un homme qu'une femme, en tout cas à ma génération. Hein. À ma génération aussi, effectivement, on a toujours été élevé dans l'esprit de devenir interprète, mais surtout pas compositeur. En tant que femme, l'idée même d'être compositeur, c'était une chose, c'était un mot qu'on ne prononçait pas. De toute façon, ça n'a pas de féminin à cette époque-là. Et donc, on ne pouvait pas imaginer même qu'on aurait pu être compositeur. L'autre...
Vous en faites quelle analyse ? Pourquoi, selon vous ?
Pourquoi on ne peut pas être compositeur ?
Pourquoi il y avait ce tabou ? Pourquoi c'est comme une transgression de dire « je suis une femme qui écrit » ?
Je ne me suis pas posé la question parce que mon histoire fait que je suis devenue compositeur petit à petit, mais ça a été long. Et je crois qu'une des choses, enfin en tout cas de ma génération, la première chose à laquelle une femme est dévouée, c'est d'avoir des enfants et d'élever ses enfants. Ce que j'ai fait volontiers, et c'était même une chose à laquelle je tenais énormément. Sauf qu'effectivement, par rapport au métier de compositeur, c'est très difficile parce que quand on a des enfants, il faut avoir une attention. Et sonorement, c'est très difficile d'avoir une attention à l'écoute de l'enfant et à l'écoute de la musique qu'on porte en soi. Donc c'est quasiment impossible. Enfin, on ne peut pas faire les deux en même temps. Et donc il a fallu attendre longtemps avant de devenir compositeur, en tout cas dans mon cas, pour pouvoir avoir cette disponibilité dans ma tête à vraiment cette sonorité intérieure que j'avais.
Est-ce que ce serait abusif de dire, parce qu'on cherche au cours de cette émission des réponses à cette question, musique, femme, pourquoi ces difficultés ? Au fond, l'homme qui écrit résoudrait un problème de conception qu'il ne peut pas résoudre autrement ?
Oui, non, je pense que la femme a autant de problèmes de conception à résoudre que l'homme. Simplement, on l'a cantonnée dans son rôle de mère et que l'homme lui a donné ce rôle de créatrice à partir de la maternité. Mais je crois que c'est deux formes de création totalement différentes. La maternité, c'est une chose, et d'élever un enfant, c'est une chose, mais la maternité dans l'œuvre, j'allais dire, c'est vraiment un autre domaine.
Vous avez assumé maternité et composition. Est-ce que, au stade où vous en êtes de compositeur, compositrice, j'oserais dire, est-ce que la concurrence continue et la difficulté d'être une femme par rapport à des compositeurs hommes est une chose difficile ?
Moi, je ne me suis pas tue pas du tout sur ce plan-là. J'ai mon travail à faire, je le fais. J'ai mes œuvres à écrire. Enfin, je sens que j'ai vraiment. J'ai ça en moi qui doit émerger. Donc je ne me situe pas du tout par rapport à une concurrence vis-à-vis des hommes, mais je ne pense pas une seconde que je suis une femme et que parce que je suis une femme, ce ne sera pas forcément joué.
Alors, dernière chose, vous parliez d'œuvres jouées, profitons-en pour parler d'actualité. Vous êtes en ce moment en grand travail à Saint-Quentin-en-Yvelines pour préparation d'exposition et un opéra. Dites-en un petit mot.
Oui, ben, l'exposition, c'est un travail que je fais autour de la mémoire sonore et qui est lié en fait au thème de l'opéra, puisque l'opéra est un travail sur l'éveil de la conscience et le rapport entre la voix parlée et les mots qui portent un sens et la voix chantée qui pour moi est comme la voix intérieure. Donc j'ai voulu faire dans cette ville nouvelle un travail sur la mémoire sonore qui mettait en évidence tout ce travail d'éveil de la conscience et de mémoire et du sens qu'on donne à la vie à travers la mémoire.
Pensez-vous que ce serait un sujet qu'un homme aurait pu trouver aussi facilement ?
J'espère pour moi quand même que c'est un sujet universel, mais... Mais peut-être qu'en tant que femme, je suis peut-être plus sensible à cette intériorité. Ça, je le pense, effectivement. Je crois qu'on a, on a en nous quelque chose d'abord dans le temps qui est très différent. Effectivement, on a une gestion du temps, je crois, qui n'est pas la même que celle de l'homme. On a un temps, je ne dirais pas plus lent, mais peut-être plus méditatif, hein, moins tourné vers l'action, plus multiple aussi, parce que je crois effectivement qu'en... Enfin, moi, je le sens très fort. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir une capacité à être dans des temps différents, du fait que je suis une femme, justement.
Je voyais Michel Reverdy fébrilement prendre des notes au moment où Claire Renard parlait. C'est vrai que c'est toujours délicat de faire parler, de faire rencontrer deux compositeurs alors qu'elle n'est même pas présente pour argumenter. Mais bon, c'était une manière aussi de faire parler Claire Renard et en même temps de provoquer Michel Reverdy.
C'est très intéressant. Mais j'ai sauté parce que Claire Renard a dit qu'elle n'avait jamais l'idée de dire qu'elle était compositeur et qu'elle voulait l'être. Moi, je sais que je veux être compositeur depuis l'âge de 7 ans. C'est pour ça que j'ai sauté, parce que ça, c'est une chose qui ne m'a jamais quittée. J'avais cette conviction. Bon, je vous ai dit que j'avais mis du temps à faire mes études d'écriture, mais j'écrivais déjà de la musique, et ça depuis l'enfance. Donc ça ne m'a jamais effleuré que je ne puisse pas être compositeur un jour. Alors, bon, voilà déjà une première chose. Ensuite, quand Claire Renard a parlé d'enfant, en disant qu'elle avait fait un choix, c'est vrai, elle a fait un choix. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai eu un enfant et j'ai écrit de la musique. Et pour moi, ça ne se posait même pas le problème du choix. C'était deux choses tellement évidentes. Il fallait que j'écrive de la musique. Et puis, j'avais un enfant que j'aimais.
Vous étiez voilà. Comme l'image de la Superwoman.
Non, non, je crois pas.
Là,
non,
le chérubin grognon dans la main et le téléphone dans l'autre.
Non, parce que d'abord, j'avais un chérubin qui n'était pas grognon, qui était adorable. Et non, j'ai pas du tout souffert de ça. J'ai beaucoup plus souffert de l'abandon des hommes que, par exemple, le père de ma fille. Oui. Qui ne s'est jamais occupé d'elle et qui nous a quittés très vite, que du fait d'être obligée de m'occuper de cet enfant qui m'a apporté énormément de bonheur. Et... Alors, pour l'enfant, c'était difficile, par contre, et ça, on en a beaucoup parlé maintenant que ma fille est adulte, c'est qu'elle s'est toujours sentie en concurrence avec ma passion pour la musique. Alors c'était difficile pour elle. Pour moi, non, ça ne l'était pas, parce que j'étais tellement sûre de l'aimer et d'aimer la musique aussi. Mais c'était deux choses qui faisaient partie de moi, qui étaient ma vie. Mais elle, elle s'est sentie en concurrence avec une passion qui était immense et qui lui portait ombrage, apparemment.
C'est drôle parce que vous exprimez là ce que des enfants dans des familles, j'allais dire constituées et normalement constituées, des enfants peuvent dire à leur père.
Oui.
Bien souvent, le père absent est...
Et là, comme il n'y avait pas de père, il fallait bien que...
Oui, mais c'est quand même intéressant ce renversement tout à coup. Le travail de composition devenant l'activité néfaste par rapport à l'enfant.
Non,
l'activité,
pas néfaste.
J'allais dire masculine.
Je ne dirais pas néfaste, mais
non, néfaste.
L'enfant a souffert de cette concurrence parce que l'enfant veut tout l'amour de sa mère et ne veut pas partager. Or, elle avait l'impression d'être obligée de partager avec une passion. Et une passion, c'est dévorant, c'est vrai. Dernière chose qui m'a
fait réagir,
fait un peu réagir, c'est que Claire Renard parle aussi, elle dit que la maternité, c'est très différent de la maternité vis-à-vis d'une œuvre. Moi, je trouve qu'il y a une analogie, en particulier quand elle parlait de l'éducation. On met un enfant au monde, on lui donne ce que l'on peut, on met une œuvre au monde et après elle vit sa vie, elle aussi, comme l'enfant vivra sa vie. Donc il y a un moment où c'est un petit peu la même démarche. On lance l'enfant dans la vie, on lance son œuvre dans sa vie aussi, dans sa vie propre.
C'est intéressant de souligner et de bien préciser qu'au fond, tout cela, tout ce que vous nous exprimez n'a pas de caractère de contradiction ou de divorce intérieur. Vous écrivez, vous faites des enfants, vous vivez votre vie dans une sorte d'entièreté.
Il ne peut pas y avoir de divorce en moi dans la mesure où je suis presque né compositeur. Je n'imagine pas ma vie sans écrire de la musique, sans imaginer de la musique. Je n'imagine absolument pas ma vie sans musique. Donc, c'est comme si vous me disiez, je sais pas moi, enfin, puisque je suis la musique que j'écris, pourquoi ne puis-je pas aussi faire des enfants, manger, dormir, faire comme tout le monde? Mais je suis cette musique en même temps. Donc il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de choix, il n'y a pas eu de choix.
On va parler d'un compositeur que vous aimez, je crois, Betsy Jolas.
Oui.
Et justement, puisqu'on est dans le domaine des enfants, on va écouter une pièce assez inattendue de la part de Betsy Jolas, mais qui vient, je crois, d'une histoire ancienne. Elle a écrit, je crois, un jour pour sa petite fille, une sorte de petite comptine. Et puis elle a repris ce travail, elle a écrit une pièce pour piano. On écoute. La voix d'Olivier Reboul, un jeune garçon, dans ce divertissement, on peut le considérer comme cela, de Betsy Jolas, une pièce pas très sérieuse, mais en même temps intéressante, puisqu'on était dans la problématique de l'enfant. Et Betsy Jolas, c'est quand même quelqu'un d'important pour vous,
ah oui,
Michel Reverdy.
Oui, c'est un grand compositeur,
grand
bien
compositeur.
Sûr.
Ah oui. Et alors, justement, on était dans notre conversation précédente sur un sentiment, en fait, d'équilibre. Comme moi, quand je vous écoute, c'est que, d'une certaine manière, les clivages, aujourd'hui on est le jour de la fête de la femme et un jour peut-être de revendication pour certaines femmes. D'une certaine manière, je ne vous entends pas revendiquer quelque chose contre une sorte d'oppression, contre une sorte d'envie de combattre.
Non.
Je trouve que tout ce que vous nous dites sur votre relation à la musique et au milieu masculin malgré tout, reste assez équilibré et tranquille.
De toute façon, on a mille raisons de combattre, que l'on soit homme ou femme, dans cette société. Donc, il y a des revendications, mais elles ne sont pas spécifiquement féminines, je pense.
Mais, par exemple, je vais vous reciter un article paru dans le numéro Esprit, d'ailleurs je le signale à nos auditeurs, très beau numéro sur le masculin et le féminin. Alors, les normes, les valeurs, les catégories qui faisaient il y a peu encore partie d'un implicite social relevant de l'évidence informulée s'affaiblissent au point de devenir fantomatiques. Élever ses enfants, choisir son conjoint, ses amours, gérer son corps, sa santé, ceux des siens, autant de domaines où le ça va de soi des règles et normes sociales traditionnelles, va de moins en moins de soi, où les anciens usages sont oubliés, remis en cause ou réprouvés. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, cette alternative homme-femme, qui a été un combat et qui a été remise en cause très violemment par les féministes il y a de cela 20 ans, maintenant, semble être rentrée plus ou moins dans les mœurs. Mais pour vous, vous n'estimez qu'il n'y a plus rien à défendre ou à lutter par rapport à votre métier et par rapport à votre travail.
Et par rapport à ma féminité, vous voulez dire? Parce que par rapport à mon travail, il y a beaucoup de choses à défendre et il y a beaucoup de...
On va y revenir, parce que vos difficultés et vos difficultés...
Mais qui sont propres à tous les compositeurs, qu'ils soient hommes ou femmes.
Peut-être accentuées par le fait que vous êtes une femme.
Peut-être pas.
Peut-être pas.
Non, je ne crois pas. Peut-être même que la femme qui est peut-être un peu plus pragmatique et qui a d'ailleurs justement tellement souffert dans les siècles précédents de l'étouffement par rapport à l'homme, peut-être justement qu'elle est tellement contente et heureuse de pouvoir enfin exprimer un métier qu'elle est moins amère que les hommes. Et moi, je constate que mes amis compositeurs hommes sont bien souvent plus amers que moi, alors que moi, je trouve que c'est un miracle que je puisse effectivement exercer ce métier avec bonheur et avec toutes les difficultés que ça comporte, mais quand même, on ne m'empêche pas d'écrire de la musique et la musique que j'ai envie d'écrire, donc ça c'est formidable.
C'est intéressant ce que vous dites, amertume de difficultés liées à la production, difficultés
oui,
d'exercice de son propre
métier. Certains voudraient
métier.
Avoir un statut de compositeur, voudraient avoir des mensualités, des choses comme ça. Moi je ne revendique pas ça. D'abord je trouve ça dangereux. Alors, on a vu ce qui s'est passé en Union soviétique où à partir du moment où le pouvoir nourrit régulièrement un compositeur, il a un droit de regard sur son esthétique.
Je suis
d'accord,
mais c'est pas parce qu'on est pauvre que ça va forcément mieux.
Mais on n'est pas pauvre, on peut exercer
pauvre.
Un autre métier, on peut enseigner comme je le fais. Par exemple, et je pense qu'à toutes les époques, les compositeurs ont eu plusieurs métiers. Ils étaient chefs d'orchestre, ils étaient interprètes, ils étaient enseignants. C'est une vision romantique, le compositeur qui ne fait rien qu'écrire sa musique. Et je ne crois pas que d'ailleurs que ça soit une bonne solution, parce que celui qui ne fait qu'écrire de la musique a tendance à s'enfermer par rapport à la vie sociale et à ne pas justement être très vivant. Or, pour écrire de la musique, je crois qu'il faut vivre, il faut s'affronter aux difficultés. Enfin, ça, c'est ma vision des choses.
Alors justement, vous parliez de vision romantique, j'ai eu envie de demander à Jean-François Gottschalk, que vous connaissez peut-être et qui a été, il y a ça, une dizaine d'années, animateur d'un colloque sur le thème de la femme et de la musique, un petit peu son avis. Alors j'ai essayé de le joindre par téléphone. Qu'en est-il au fond de cette histoire homme-femme dans le domaine musical? Est-ce que c'est toujours un problème?
Ça reste vraiment un grand mystère, parce que même donc plus de 10 ans après, effectivement, comme vous le disiez, il y a quand même encore assez peu de disques ou de partitions écrites par des femmes, ou de disques d'œuvres écrites par des femmes. Il y en a d'ailleurs, hein, Clara Schumann commence à être connue en Allemagne, il y a des pièces de Fanny Mendelssohn qui sont publiées.
Oui.
Et moi, je sais que j'avais toujours été effectivement très frappé par le fait que les femmes dans la musique sont plutôt moins connues et moins célébrées que dans d'autres arts, la peinture, la littérature, ça c'est sûr. Donc je crois que c'est un vrai mystère, parce que quand on entend par exemple certaines œuvres, alors je vais prendre celle que je connais le mieux évidemment, de Clara Schumann, on se dit qu'elles sont tellement belles qu'il n'y a vraiment aucune raison pour qu'elles ne soient pas connues et plus jouées. Et donc il y a un véritable mystère sur l'ensevelissement des femmes comme créatrices dans le domaine musical.
Was
Clara Schumann qui fait écho à l'œuvre de Michel Reverdy, à la présence de Michel Reverdy avec qui nous terminons cette émission. Alors, justement, l'histoire, l'ensevelissement des femmes dans l'histoire, est-ce que c'est...
Je pense que si une femme est géniale, ça finit par se savoir.
Oui.
Cela dit, peut-être autrefois, on n'a pas laissé le temps aux femmes de devenir géniales, parce que quand même, on n'est pas génial en naissant, hein, ça se travaille.
Non, ni homme ni femme, d'ailleurs.
Ni homme ni femme. Et la composition, ça se travaille, et c'est vrai que la société ne permettait pas aux femmes jusqu'à l'orée du XXe siècle de s'accomplir dans ce genre de métier. Donc, c'est plutôt ça qui s'est passé. On les a ensevelies avant qu'elles aient commencé à composer, finalement, mais pas après. Si elles avaient laissé vraiment des grands chefs-d'œuvre, je pense qu'on les entendrait.
Oui, mais je vais vous citer Betsy Jelas, que vous aimez beaucoup. « Je me disais que je ne pouvais pas être compositeur parce que j'avais placé mes buts tellement haut, ce que ne fait pas un homme, qu'il fallait que je sois Bach ou Beethoven ou rien du tout. »
C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, on n'admet pas la médiocrité chez une femme. Une femme médiocre, on va dire, c'est un mauvais compositeur parce que c'est une femme. Moi, je connais des tas de très mauvais compositeurs hommes. On ne dit jamais qu'ils sont mauvais parce qu'ils sont hommes. Je vous l'ai dit tout à l'heure à propos des chefs d'orchestre. C'est vrai que la femme doit être exigeante. Et d'ailleurs, c'est peut-être dans nos gènes, ça. C'est-à-dire que nous avons une exigence. Nous avons une espèce de volonté de perfectionnisme. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé avec Betsy.
Que nous n'avons pas.
Depuis 20 ans, on en parle ensemble.
Hommes.
Non, peut-être pas. Je me rappelle très bien que quand j'étais jeune compositeur, mes camarades, ils avaient écrit une œuvre et ils étaient tellement fiers d'avoir écrit une œuvre qu'ils la faisaient jouer partout. Moi, je doutais tellement. Je disais non, c'est pas encore abouti. Ça n'est pas exactement ce que je veux. Et je sais que Betsy a ressenti la même chose. On en a beaucoup parlé. D'ailleurs, elle m'a aidée puisque c'est mon aînée. Et donc, peut-être nous avons un doute plus grand et nous travaillons peut-être plus les choses.
Un extrait du Quatuor de Betsy Jelas et nous retrouvons Michel Reverdy pour terminer cette émission. Alors, des secteurs plus précis et plus pointus dans la musique, est-ce que tous les secteurs de la composition sont accessibles de la même manière pour une femme ou est-ce qu'il y a des pans ? Je pense par exemple à l'électroacoustique, je pense à la technologie IRCAMienne.
Bon, alors, moi je suis un peu particulière, je ne peux pas parler pour mes consoeurs, comme on dit, mais en ce qui me concerne, j'ai un blocage vis-à-vis de la technologie.
Même avec votre voiture ?
Ah non, je déteste mettre le nez dans un capot de voiture, je déteste tout ce qui est je déteste les garages, tout ce qui est technique, ça me fait peur. J'ai pourtant fait des efforts, puisque après mes années de composition dans la classe de Messiaen, j'ai fait les 2 ans de stage du groupe de recherche musicale. Je n'en ai rien sorti pour moi-même, donc je ne suis pas douée pour ça. Alors je me suis dit, peut-être c'est parce que je suis une femme. Les hommes adorent bricoler, moi je n'aime pas bricoler. Et donc je n'aime pas les choses qui ne sont pas directement liées, justement, peut-être au corps. Et c'est pour ça que j'adore les instruments, parce que l'instrument fait partie du corps de l'interprète, et là, il y a un rapport humain direct. C'est peut-être pour ça que j'adore la voix aussi. Mais est-ce que c'est féminin ou pas? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mon rapport à la technologie, c'est peut-être... d'ailleurs, je connais des hommes qui ont exactement les mêmes complexes. Donc, on ne tranchera pas encore. Je ne crois pas qu'on puisse répondre.
Alors, en un mot, présentez-nous l'extrait musical que nous allons écouter maintenant et qui est donc le début d'une pièce dont on va écouter trois extraits.
Donc, c'est un trio pour piano, violon et violoncelle qui m'a d'ailleurs été commandé par le trio Wanderer. Et ce trio s'appelle En terre inconnue. C'est-à-dire que c'est la découverte d'un monde. Et le premier extrait que nous allons écouter, c'est le début du trio. On commence avec le chaos originel, c'est-à-dire que peu à peu, la musique va naître du néant jusqu'à petit à petit exister. Alors là, peut-être c'est féminin, c'est la naissance des choses. Et c'est vrai que j'ai remarqué, après coup, que très souvent, je commence mes œuvres comme ça, avec dans le silence, et petit à petit, la musique arrive.
Ça va, pour une fois que je suis en compagnie du compositeur, je peux me permettre de choisir le moment où nous arrêtons la musique. Nous allons continuer d'ailleurs et terminer cette émission avec des extraits musicaux de Michel Reverdy. Alors, on parle des formes justement. Il a été dit, bon, ça va peut-être vous faire sauter en l'air, que les femmes compositeurs étaient plus souvent tentées par les formes, plus petites formes, mais avaient une sorte de crainte par rapport à la grande forme.
Bon, on raconte tellement de bêtises. on dit par exemple, on dit aussi, comment pouvez-vous vous affronter à l'opéra le dernier opéra, c'était Wozzeck. Bon, il y en a eu d'autres après, il y a eu ne serait-ce que Zimmermann. Mmh. Bon, mais comment pouvez-vous écrire un quatuor après Beethoven? C'est pas possible. Bon, alors si on était arrêté par toutes ces impossibilités, on ne serait plus compositeur, on n'écrirait plus rien. Donc, ça n'est pas vrai. Moi, je suis passionnée par la problématique de la forme et par la gestion du temps musical. Et c'est vrai que j'ai écrit 3 opéras et que dans le plus récent, parce que au fur et à mesure que j'avance dans mon métier, je cerne les problèmes de plus près. Dans le plus récent, j'ai cherché à résoudre la problématique de la forme de l'opéra de façon à ce qu'il y ait une grande forme qui soit régie. D'ailleurs, c'est très simple. Le précepteur, d'après Lenz, donc le 3e opéra que j'ai écrit, comporte 21 scènes. Je l'ai construit sur 21 accords, tout à fait d'une façon, enfin c'était un choix arbitraire. Ces 21 accords, quand ils sont enchaînés les uns aux autres, forment une grande mélodie supérieure, la ligne supérieure. Dans chaque scène, le son pivot de chaque scène est un des sons de cette mélodie supérieure. Ce qui fait qu'on a une grande ligne utopique qui va régir toute la forme de l'opéra, déjà à ce niveau-là. Ensuite, dans les formes locales, on va retrouver évidemment mes accords. Bon, je vais jouer beaucoup sur les couleurs harmoniques en sélectionnant ces accords. Par exemple, la première scène ne sera écrite que sur un seul des 21 accord pour garder une même couleur. Elle est en camaïeu, en quelque sorte. Dans la scène 21, où tout explose, il va y avoir tous les accords dans de nombreuses transpositions, donc les couleurs vont éclater. Là aussi, c'est une façon de gérer le temps musical par l'harmonie. Il y a aussi tous les choix des processus d'écriture, des formes locales, une forme en miroir, une forme avec des retours, toutes les formes possible, imaginable, qui puisse rendre compte d'un texte ou d'un état psychique, je les utilise. Et évidemment, l'œuvre invente sa propre forme également. Les formes préétablies n'existent pas en musique. Je suis contre toutes les théories et contre tous les enfermements. Donc, j'estime que pour chaque œuvre, on construit une forme. Mais on se réfère à des schémas déjà existants, parce qu'ils sont de toute façon, ils sont en nous, ces schémas, depuis les origines. Alors, ça, c'est vraiment faux de dire que la femme ne s'intéresse pas à la grande forme.
Parce que là, vous
rapport entre les grandes formes et les petites formes. Pour moi, c'est très important que les formes locales aient un rapport avec la grande forme et inversement. Et dans le trio, c'est évident aussi. Bon, je ne vais pas faire l'analyse du trio, on en a pour 3 jours.
Alors, un petit détail, ce n'est pas qu'un détail, sur les thèmes de vos opéras. On ne peut pas quand même ne pas remarquer que les sujets, le choix des sujets, alors est-ce que là on peut dire c'est masculin, c'est féminin? Le choix du sujet n'est pas neutre. Vous choisissez Van Gogh, vous choisissez le château, vous choisissez le précepteur. À chaque fois, c'est tout de même des histoires un petit peu compliquées.
Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. Je veux dire, j'ai écrit un premier opéra d'après le château de Kafka. Ça, c'était une chose que je portais en moi depuis des années parce que j'avais une admiration, une fascination pour toute l'œuvre de Kafka. Oui, il me semblait que le château était l'œuvre qui allait le plus loin. Parce que le personnage de K, bon, c'est Kafka, c'est une autobiographie à mon avis, et ce personnage est à la recherche de son identité. Il cherche à se faire admettre par une société, par l'amour, à travers l'amour, et il ne réussira pas.
Je vais faire une transposition abusive, mais une femme qui est dans un milieu d'hommes cherche à se faire admettre dans une société d'hommes et écrit un opéra en prenant une thématique
peut-être.
Où il faut lutter contre un château imaginaire qui serait tenu par les hommes.
Peut-être. Oui, il n'y a peut-être pas que ça.
Peut-être pas que ça. Non, mais ça. Bon, Van Gogh, c'est.
Bon, Van Gogh, c'est la même chose. Il veut se faire admettre à travers son art.
Bien sûr.
Et Lenz, le précepteur de Lenz est aussi autobiographique. C'est Lenz qui n'arrive pas, lui, à se faire admettre par la société, qui va se châtrer. Mais finalement,
ce sont. Non, mais c'est vrai que ce sont. On continue.
Oui, c'est vrai que ce sont 3 hommes. J'ai réalisé après coup que ces 3 sujets avaient une analogie. Quand je les ai choisis parce que c'était des textes qui me plaisaient. Bon, le Van Gogh, c'est d'après les lettres de Vincent à Théo, et c'est un livret de M.S. Gilles, qui est un de mes amis. Les 2 autres, c'est Kafka et Lenz. Donc, après coup, j'ai vu qu'il y avait un rapport. Mais pour moi, c'était la situation de l'artiste qui était en cause. C'était pas...
La situation homme-femme. Oui.
Non, c'était pas ça. Pour moi, c'était l'artiste. Kafka, Lenz et Van Gogh, c'était des gens qui, à travers leur art, voulaient se faire admettre.
Oui, mais peut-être que la femme est plus près de la difficulté de la situation de l'artiste.
Peut-être.
Voilà, presque au terme de l'émission, Michel Reverdy en la musique, je crois que ça serait d'ailleurs une bonne chose ce jour de la fête de la femme de laisser parler la musique. On est quasiment à la fin du voyage parce que j'aimerais vraiment qu'on écoute la fin de ce trio et une mention particulière quand même aux interprètes, hein, Guillaume Sutre, Raphaël Pidou et Vincent Coq,
oui,
le trio Vandereur, et ils jouent cette œuvre formidablement bien. Un mot de conclusion, c'est difficile sur un si vaste sujet.
Je peux parler de la fin du trio qui est une fin violente et passionnée, je vous avais dit tout à l'heure.
Masculine.
C'est ça. Ah non, justement, féminine, parce que puisque je vous ai dit, il paraît que la femme vit davantage dans la passion que l'homme. Alors voilà, on a commencé à la naissance des choses, c'était la mater génitrix au début, puis on finit dans la passion.
Voilà, on termine donc avec le trio Vandereur et cette œuvre de Michel Reverdy, En terre inconnue. Voilà la fin de cet Euphonia. Rendez-vous demain pour la suite de cet Euphonia sur les femmes. Équipe de réalisation, Georges Adaden, Alain Benoît, David Gis.
C'était un numéro d'Euphonia de David Gis consacré à Michel Reverdy. Réalisé par Georges Adaden et diffusé pour la première fois le 8 mars 1995.